C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit « Allahu Akbar ». Après ça, ils ont dit que « Où est l'argent ?» Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ce soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, la lutte contre Boko Haram sera-t-elle plus effective avec le nouveau président nigérian ? Première enquête sur les violations systématiques et à grande échelle des droits de l'homme en Érythrée. Pour mieux faire face à la soudure au Mali, la Banque islamique pour le développement a accordé un prêt de plus d'un milliard de francs CFA. Enfin, Jennifer Lopez fait scandale au Maroc. Voici tous les sujets que nous allons développer aujourd'hui dans Sahel Plus. Restez avec nous. Le changement à la tête du Nigeria pourrait relancer les efforts des États-Unis pour combattre Boko Haram. Selon les analystes, l'investiture du président Muhammadu Buhari donne aux deux pays une chance de repartir sur de nouvelles bases après des relations plutôt tendues sous son prédécesseur Goodluck Jonathan. Les précisions d'Idrissa Sedoudia.
Dans une vidéo publiée en ligne cette semaine, on a vu des combattants de Boko Haram arborant apparemment le logo de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest. Rien que des mensonges, affirme ce militant qui dément que les pays combattant son groupe aient eu de gros succès dans leur tentative de neutraliser Boko Haram. Cette vidéo a été publiée quelques jours seulement après l'investiture du président Muhammadu Buhari qui s'est juré de faire de la lutte contre le groupe islamiste nigérian sa priorité des priorités. Et l'ancien général a discuté de cette question avec le secrétaire d'État américain John Kerry, qui était présent à sa prestation de serment. Pour J. Peter Pham de l'Atlantic Council, il est important que Washington ne permette pas le pourrissement de la situation qui prévalait sous le précédent régime nigérian. Je m'attends à ce que les États-Unis agissent rapidement, envoient des conseillers pour aider le Nigeria, par exemple dans les domaines du renseignement et de la logistique. Le politologue américain rappelle que le Nigeria n'est pas un pays pauvre malgré ses problèmes économiques actuels. Il ne veut pas de charité, mais aimerait avoir la possibilité d'acheter lui-même assez d'équipements et autres pour relever ses défis. Pour sa part, l'analyste Mohamed Rahim s'est exprimé sur la question au programme Africa 54 de la VOA. Monsieur Rahim insiste sur l'assistance technique et explique que les États-Unis et les autres puissances mondiales devraient se concentrer sur l'aide aux communautés frappées de plein fouet par les attaques et enlèvements de Boko Haram. Au département d'État américain, un haut responsable a déclaré lors d'un briefing que les États-Unis espèrent faire plus pour aider le Nigeria à combattre Boko Haram, y compris l'entraînement d'un bataillon cette année.
Corne de l'Afrique pour évoquer l'Érythrée qui est au cœur d'une enquête des Nations Unies. Selon les conclusions d'un rapport onusien, les violations systématiques et à grande échelle des droits de l'homme par le gouvernement d'Érythrée poussent quelque 5000 Érythréens à fuir leur pays chaque mois. Des réfugiés qui constituent la seconde population après les Syriens à se lancer dans la périlleuse traversée de la Méditerranée. L'analyse de Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, auteur d'Érythrée, un naufrage totalitaire.
Oui, bien sûr. Alors les chiffres, vous voyez souvent le chiffre officiel, et c'est d'ailleurs celui qui est donné dans le rapport de 5000. 5000, c'est ce qu'on obtient en cumulant les fuyards qui traversent les deux frontières, l'éthiopienne et la soudanaise, et qui s'inscrivent dans les camps de réfugiés au Soudan et en Éthiopie. En réalité, on estime qu'il y a entre 5 et 10 000, donc c'est-à-dire potentiellement deux fois plus de fuyards chaque mois, parce qu'il y a aussi tous ceux qui restent clandestins et ne s'inscrivent pas dans ces camps et qui nous permettent de les recenser. Donc oui, c'est tout à fait inquiétant. Cette fuite, non seulement pour les conséquences, on en parle beaucoup en ce moment, c'est le débat sur la crise, ce qu'on appelle la crise migratoire, puisque ces Érythréens constituent le deuxième contingent le plus important à traverser la Méditerranée et à s'échouer sur nos côtes. Donc c'est important non seulement pour les conséquences, mais aussi parce que c'est le symptôme de ce qui se passe en Érythrée. Et que si ces gens-là sont prêts à risquer leur vie plusieurs fois, parce qu'ils sont tirés dessus à la frontière, ils traversent le Sahara, il y en a beaucoup qui meurent en route, ils arrivent en Libye maintenant, avant ils étaient souvent pris dans le Sinaï, il y a des phénomènes de torture, de détention, de viol, il faut après traverser la Méditerranée où ils risquent encore de mourir, tout ça pour arriver en Italie, et le trajet n'est pas fini parce que pour beaucoup, ils continuent de remonter vers l'Europe du Nord. Si ils risquent leur vie plusieurs fois, ça veut donc dire que la situation est encore plus grave en Éthiopie, et donc toute cette fuite est très symptomatique de ce qui se passe, et il s'agit bien d'un régime non pas autoritaire, comme on le dit souvent, ou de n'importe quelle dictature, mais d'un régime totalitaire, ce qui est une espèce différente et beaucoup plus rare.
Cette situation n'est pas nouvelle. Comment se fait-il que les Nations Unies ne soient pas plus fermes ?
Il est difficile de savoir comment réagir face à une situation comme celle-ci. L'Érythrée est déjà sous sanctions. Ces sanctions sont controversées. Elles suscitent un débat interne, d'ailleurs, au sein de l'ONU, au sein des pays même qui les ont défendues il y a quelques années. On se demande dans quelle mesure elles ne sont pas contre-productives. Comment être plus ferme ? Comment forcer la main à un État qui est à peu près coupé du monde, sur lequel on a très très peu de leviers, qui n'en fait qu'à sa tête et avec lequel aucun dialogue politique n'est possible. Donc les différentes solutions qu'il faut envisager, elles passent par davantage de relations avec l'Érythrée. Pour résoudre le problème d'un État totalitaire, il ne faut surtout pas l'isoler davantage, puisque c'est exactement ce que le totalitarisme veut. Il veut être isolé pour pouvoir faire absolument ce qu'il veut de sa population. Il faut empêcher l'État de phagocyter la société, et pour ça, il faut l'ouvrir, et la seule manière de l'ouvrir, c'est l'ouvrir économiquement. Ce qui produit des discussions que certains vont trouver paradoxales sur les relations qu'on doit avoir entre nos entreprises et ces dictatures.
Concrètement, comment pourrait-on trouver une solution ?
Je pense que la seule manière de changer les choses, c'est certainement pas de cesser d'avoir des relations avec l'Érythrée. On a des relations diplomatiques qui sont minimales parce qu'il est impossible de coopérer. Mais je crois que ce que demande le rapport de l'ONU, qui se termine en appelant à organiser des élections libres, à rétablir la liberté de mouvement, à libérer les 10 000 prisonniers politiques, etc., c'est très bien, mais ce sont des vœux pieux. Ça fait des années, ça fait depuis le départ, en réalité, que différents pays, l'ONU, réclament ça. C'est ce qui était déjà dans les résolutions précédentes de l'ONU. Ça ne sert à rien parce que l'Érythrée n'est pas sensible aux pressions politique ou au dialogue politique. Or, l'Érythrée peut être sensible à ses sources de revenus. C'est ça qui est le plus important pour elle. Elle en a deux à l'heure actuelle. C'est l'exploration minière. Donc, il faudrait réfléchir à des moyens d'exercer une pression là-dessus si on voulait être réellement efficace. L'exploration minière qui implique d'ailleurs des sociétés étrangères, chinoises, canadiennes, australiennes notamment, et la diaspora. La diaspora qui, à travers ce qu'il est convenu d'appeler la taxe de 2%, est forcée et rackettée internationalement, c'est ce qu'on appelle les prisonniers du passeport, et forcés de donner 2% de leurs revenus lorsqu'ils sont à l'étranger au régime. Et c'est là-dessus qu'il faut agir pour assécher les finances du régime. Le problème, c'est que le régime est aussi financé par d'autres États, et en ce moment, le Qatar, qui s'était écarté depuis le printemps 2012, semble revenir dans la course. Donc ça prolonge l'agonie du régime. Mais autrement dit, c'est sur ces leviers, c'est sur les sources de revenus du régime qu'il faudrait agir, et surtout pas en cessant d'avoir des relations avec lui. C'est absolument pas la bonne attitude à adopter face à un régime totalitaire qui n'attend que ça.
Jean-Baptiste Jean-Gêne-Villemer, maître de conférence en relations internationales à Sciences Po Paris. Son livre « Érythrée, un naufrage totalitaire » vient de sortir chez PUF.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine à la question du troisième mandat. S'éterniser au pouvoir en changeant la Constitution est-il un mal africain ? Le 21e siècle est-il celui de l'alternance politique sur le continent ? Et les Occidentaux doivent-ils imposer leurs pratiques démocratiques aux pays africains ? Nous vous invitons à en débattre sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans notre émission 19h temps universel sur VOA Afrique.
La Banque islamique pour le développement a accordé un prêt de plus d'un milliard de francs CFA. Des fonds qui devront permettre de stocker une quantité importante de riz pour faire face à la période de soudure et offrir aux producteurs un prix rémunérateur. Le stockage de cette quantité de riz est confié à l'Office des produits agricoles du Mali, l'OPAM. Reportage de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est sur la base des textes régissant les relations entre le Mali et la Banque islamique pour le développement BID que plus d'un milliard de francs CFA a été accordé au Mali sous forme de prêt. En plus, il a fallu un accord de non-objection des marchés publics pour que l'OPAM exécute ce travail. Salif Diarra, président directeur général de l'OPAM.
L'accord prévoit que des négociations se fassent entre l'OPAM et les fournisseurs. Il y a des dispositions concernant les taxes que les opérateurs normalement devraient payer et qui se trouvent être exonérés de toutes ces taxes-là. Donc nous avons traité cette matière dans le cadre strictement de cet accord. Mais nous sommes allés plus loin en écrivant à la DGMP un avis de non-objection par rapport à la gestion de ce projet dans le cadre de l'accord.
L'OPAM veut surtout stocker une quantité importante de riz afin de faire face à la période de soudure.
C'est pour permettre d'abord de donner un prix rémunérateur aux producteurs parce que quand vous prenez les données de l'OMA pour la période à laquelle on a commencé les achats, les prix étaient en train de plonger. Mais après signature contrat, les prix ont commencé à monter. Ça, c'était un objectif recherché. L'autre objectif, c'est que l'OPAM est un agent de stockage. Donc, l'OPAM achète. En achetant, nous donnons un prix rémunérateur aux producteurs et nous avons l'obligation de vendre ce riz à une période où le prix serait en mouvement ascendant.
En plus de la période de soudure qui est difficile à gérer, il s'agit de contrecarrer la mévente du riz.
Les producteurs avaient quelques problèmes pour écouler leur production et ils ont fait des interventions au niveau des plus hautes autorités qui ont vu la nécessité de leur apporter un appui. Le ministre commissaire lui-même a pu obtenir de la BID le financement d'un certain nombre de projets de résilience.
À coup sûr, le prêt accordé au Mali par la BID doit mettre un terme à la sortie abusive des riz de notre pays, tout en empêchant les prix borchants pour le bonheur des paysans. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM. Au Maroc, appel à la démission du ministre de la Communication, Mustapha Khalfi, suite à la controverse suscitée par un concert de Jennifer Lopez. Des membres du parti islamiste de la justice et du développement ont été scandalisés par la performance de la chanteuse américaine au festival Mawazine, qui a été diffusé à la télévision nationale. Un concert auquel ont assisté plus de 160 000 fans. Pourquoi une telle levée de boucliers ? Idriss Fall a posé la question à Mustapha Tossa, journaliste marocain à Paris.
Dans le cadre du festival Mawazine, qui est un festival international auquel participent de nombreuses stars de la chanson mondiale, Jennifer Lopez avait un spectacle à Rabat. Les images de ce spectacle transmises par la télévision marocaine ont été jugées comme dérangeant, entre guillemets, la morale publique et la morale sociale du Maroc. Un certain nombre de personnes ont été choquées. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement avait demandé à ce qu'il y ait une enquête. Pourquoi de telles images jugées permissives avec des positions et des postures lascives et provocantes. Et donc il y a eu tout un scandale dans l'opinion.
Pourquoi l'avoir invitée ? Parce que Jennifer Lopez, tout le monde sait qu'elle se produit comme ça.
La question est d'autant plus pertinente que le festival Mawazine avait déjà programmé dans d'autres éditions des chanteuses entre guillemets aussi chaudes, aussi hautes dans leurs performances. On se rappelle aussi quand Shakira a été à Rabat, il y avait d'autres stars et du show américain qui étaient déjà venus à Mawazine et ça n'avait pas provoqué un tel scandale entre guillemets. Alors pourquoi cette fois-ci ? Alors peut-être que ça intervient dans un contexte de débat extrêmement sensible au Maroc où il y a un parti islamiste au gouvernement mais qui n'arrive pas à trouver ses marques.
Et le Mawazine, je crois que c'est le roi qui a le dernier mot sur le choix de ceux qui viennent, non ?
Non, c'est pas le roi. Le roi n'y est pour rien dans le casting de ses stars. C'est une association culturelle dirigée certes par un proche du roi qui s'appelle Monsieur Majidi, mais le casting, il est international. Le casting, personne ne peut remettre ou l'a remis en cause le côté artistique de la chose. Toute la question est de savoir pourquoi des images de Jennifer Lopez passées à la télévision ont provoqué un tel tollé et un tel scandale aujourd'hui, alors que l'année dernière et l'année d'avant, des images aussi provocantes, aussi sensuelles entre guillemets, sont passées presque inaperçues. Ce qu'il faut chercher, c'est l'explication dans le cadre politique, dans le cadre social, et ça a un rapport aussi à voir avec le fait qu'un parti islamiste, le PGD qui est au pouvoir et dont le chef est le premier ministre du gouvernement, arrive à une certaine séquence où il ne peut plus arrêter les contradictions et arrêter les antagonismes, et d'où ces prises de position très marquées au sein de son gouvernement.
Mustapha Tossa, un journaliste marocain, joint à Paris par Idriss Fall. Et nous nous quittons avec une chanson malheureusement encore d'actualité, Africa Stop Ebola, car l'épidémie persiste en Guinée et en Sierra Leone. La Guinée a prorogé jusqu'à fin juin et étendu à de nouveaux départements l'urgence sanitaire renforcée. La Guinée qui a mis en place une série de mesures incluant la fermeture temporaire des services hospitaliers et cliniques privées au sein duquel des cas d'Ebola ont été déclarés, mais également les guérisseurs qui ne déclareront pas aux structures de santé spécialisées les cas suspects d'Ebola seront poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui, tout comme toute personne qui cache des malades ou déplace des corps d'une localité vers l'autre. Enfin, toute personne qui menacerait ou s'attaquerait aux acteurs de la lutte contre Ebola, à leurs équipements ou à leurs édifices, sera également passible de poursuites. Il y a quelques jours, les Nations Unies ont déploré de récentes violences dans l'ouest de la Guinée, ayant sérieusement entravé le travail des travailleurs humanitaires déployés contre Ebola. Celle plus, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Michel Joseph pour la réalisation. Très bonne soirée et bonne nuit à tous.
L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades, ne touchons pas nos mourants. Tout le monde est en danger, les jeunes et les anciens. Il faut agir pour nos familles.
Ennemi. Si vous vous sentez malade, les docteurs vont vous aider. Je vous rassure, les docteurs vont vous aider. Il y a de l'espoir d'arrêter Ebola. Et confiance aux docteurs.
Yabana ya RDC Kasisu kasuka.